Entretien littéraire, Mathias Sénard.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de m'entretenir avec Pascal Quignard à l'occasion de la publication de son nouveau recueil d'essais dans la collection Fiction et compagnie des éditions du Seuil, complément à la théorie sexuelle et sur l'amour. Bonjour Pascal Quignard.
Bonjour.
Pascal Quignard, vous êtes l'auteur d'une œuvre très importante qui compte près de 80 numéros d'opus, parmi lesquels il faut mentionner les 8 tomes des Petits Traités, les 12 volumes du Dernier Royaume, dont le 12e, Les Heures Heureuses, est paru en septembre 2023, mais aussi un ensemble de romans fameux, comme Tous les Matins du Monde, Villa Amalia, Les Larmes, ou très récemment L'Amour, la Mer, pour lequel j'avais eu le plaisir de vous recevoir à ce micro. Vous êtes aussi essayiste, vous avez publié nombre d'essais sur différents sujets, parmi lesquels on pourrait retracer une forme d'obsession, en tout cas une ligne de force, peut-être même deux, qui ont justement à voir avec ces compléments à la théorie sexuelle et sur l'amour. Pascal Quignard, voyons voir si vous êtes d'accord. Première ligne, première obsession, pour ce qui se joue de sexuel dans l'origine, pour l'indépassable qu'il y a dans le moment de l'engendrement, et seconde ligne, conséquence de la première peut-être, seconde obsession, pour la façon dont la psychanalyse fait le récit de ce moment, l'envisage, et d'une certaine façon le code et le décode dans la littérature.
Ah, c'est très bien, c'est très bien. C'est très bien. C'est vrai que de plus en plus, et c'est pour ça même que j'y suis parfois, je pourrais paraître insistant sur ce thème, c'est vrai que de plus en plus, le fait que la vie sur Terre et la nature, loin de procéder par division cellulaire, par répétition, par auto-imitation, par... loin de ça, a inventé cette chose tout à fait invraisemblable pour les biologistes, qui est la sexuation. Les végétaux, plus je vieillis, plus le jardin au printemps me fascine, les bourgeons, le fait que des semences, des graines doivent s'éparpiller sous les pattes des oiseaux, sous les bottes de lorsque nous marchons, le fait que notre origine ne soit pas en nous-mêmes, que nous n'ayons rien à notre source, que deux êtres qui sont différents, qui s'emboîtent avec haine, avec amour, maladroitement, adroitement, on n'en sait rien. Dans une scène dont on provient, mais qui n'est pas nous-mêmes, me paraît de plus en plus incroyable et de plus en plus mystérieux. Ça, en effet, ça me laisse un peu émerveillé et hébété.
Et Pascal Quignard, les compléments, si on peut appeler ce recueil ainsi, s'ouvrent par un avertissement qui est, un peu comme tout le livre d'ailleurs, lui aussi double. D'une part, les chapitres que nous allons lire sont, écrivez-vous, des dossiers restés ouverts et qui n'aboutiront pas. Et de l'autre, un peu comme le sage, l'âne-tâne aux longues oreilles, laisse les feuillets de son savoir à un poste frontière sur la grande muraille avant de disparaître vers la ténèbre occidentale. Une forme de testament, c'est-à-dire ce qui rejoint le passé et l'avenir. La promesse d'une forme de fécondation, en réalité.
Oh, j'espère pas autant que la fécondation. Là, vous restez en effet dans le mystère de la sexuation et de la fécondité. Non, mais le mot testament convient. Parce que, comment vous dire ça? Ça n'est pas un adieu. C'est un testament dans la mesure où il m'a semblé que je devais, alors que l'époque était tournait vers quelque chose de très psychiatrique, de très cognitiviste, de très médicamenteux, de très anti-psychanalyse, dire, reconnaître, faire une sorte de coming out, si j'ose dire, reconnaître que ça m'avait sauvé la vie. Que si je n'avais pas fait une dizaine d'années d'analyse, je ne serais pas là pour vous parler. Parce que le désir de mort était trop grand, je ne pouvais pas continuer de vivre. Donc c'est un geste, si vous voulez, sinon de testament ou d'adieu, pas du tout. C'est un geste de gratitude, voilà, de gratitude plutôt.
J'ai envie de dire, je ne serai pas là pour vous écrire, peut-être autant que pour vous parler, dans votre cas, puisque la psychanalyse, c'est aussi la possibilité de la littérature. C'est le récit, enfin en tout cas, c'est ce qu'on en lit, c'est avant tout de essai au sens noble du terme, c'est-à-dire récit, mythe, façon de mettre en mots quelque chose qui nous dépasse ou qui nous relie.
Ça, moi, je pense comme vous, Mathias et Hénard. Je pense comme vous. Mais tout le monde ne le pense pas. Je me souviens de nombreux écrivains, je me souviens même de Jean d'Ormesson, très précisément, qui me disait qu'il ne ferait jamais de psychanalyse parce qu'il voulait continuer d'écrire. Moi, je reconnais que lorsque j'étais extrêmement en mauvaise condition dans les années 1980, j'espérais arrêter d'écrire, qui était quand même ma malédiction, si j'ose dire, à l'époque, en faisant une psychanalyse. Ça n'a pas du tout été le cas. Je crois que vous avez raison. Mais que peu devinent qu'il y a, comment dire, dans l'évasion mentale, peut-être, qu'est la psychanalyse quelque chose qui est de l'ordre du réensauvagement plutôt que de quelque chose qui serait de l'ordre du symbolique. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose qui est, en effet, derrière Ferenczi, derrière Freud, derrière aussi leur maître qui était Nietzsche, derrière tout ça. Il y a quelque chose qui quand même va plutôt vers l'origine, en effet, et ouais, je pense que, et vers la nature, vers quelque chose d'aussi mystérieux que la vie sur Terre et la nature.
Alors, Pascal Quignard, que lisons-nous donc dans ces compléments? Comment est-ce que vous avez regroupé les dossiers ou choisi les questions à laisser ouvertes? C'est pas simple.
Il y a tout le monde romain. J'avais commencé par, dans un livre il y a bien des années, qui s'appelait Le sexe et l'effroi, à essayer de comprendre pourquoi, au contraire d'ailleurs de Nietzsche, au contraire de ce que l'on pensait, le christianisme n'avait pas été le grand moment puritain de notre histoire, mais c'était l'Empire romain. C'était eux qui avaient, comment dire, éprouvé ce qu'ils appelaient taedium vitae, une sorte de dégoût de la vie au sein même du plaisir. Et j'ai voulu beaucoup fouiller ça. Et j'ai ramassé, dans ce cas-là, j'ai collecté énormément d'anecdotes et de textes là-dessus. Il y en a beaucoup qui sont restés, bien sûr, dans mes tiroirs, dans mes papiers. Et j'ai repensé à ce qu'avait fait, comment dire, Georges Dumézil, que j'avais connu à la fin de sa vie. Il y a un moment, peut-être, où ces dossiers, il faut les donner. On ne peut pas les résoudre. Ils sont des énigmes, encore. Mais ils me passionnent toujours. Donc, il y a un dossier sur ce que veut dire vraiment en romain la scène infantia, le fait d'avoir nommé, comment dire, enfant, celui qui ne parle pas, ce qui ne veut pas dire qu'il ne bruit pas ou qu'il ne crie pas, hein, celui qui ne parle pas, infance, enfance. Qu'est-ce que l'enfance à Rome? Le mystère de Tirésias aussi. Quel est cet être dans la mythologie qui a connu les deux plaisirs, qui est l'impossibilité humaine par excellence?
Oui, on va y revenir.
Oui, voilà, très bien.
Mais Pascal Quignard, j'aimerais quand même qu'on rentre dans les détails de ce livre mystérieux, un livre un peu en fragments de mystère pour moi. Première question, premier mystère. Qu'est-ce que Freud veut dire quand il écrit à Ferenczi « L'amour est une fin du monde, un Weltuntergang ». C'est mystérieux.
Ça reste pour moi mystérieux. Mais comment dire, Freud n'a pas beaucoup avoué, ni sur sa vie sexuelle, rien du tout. Sinon qu'on sait très bien, comment dire, qu'il était, comme tous les gens de l'époque, un très grand amateur de bordel, il faut dire les choses comme elles sont, et aussi avec sa belle-sœur. Mais on ne sait pas grand-chose, et cette idée, comment dire, que l'idée qu'on puisse placer sa vie dans un autre être que soi, lui paraissait en effet une idée complètement folle. Or, cette folie sidérante, c'est l'amour. Et il est vrai que nous-mêmes, en naissant, nous sortons de quelqu'un qui n'est pas soi et qui était nous-mêmes, qui était notre mère. Il y a quelque chose de profondément fou dans la naissance elle-même qui se répercute. Moi, je pense que l'amour, dans ce cas-là, se différencie énormément du désir, dans la mesure où c'est cette nostalgie. Une nostalgie qui habite tous les êtres humains, et même peut-être les plantes. Une nostalgie d'avant-elle. Une nostalgie d'être contenu dans quelque chose. Nous avons été contenus avant de sortir de cette contention. Vous voyez ce que veut dire cette contenance? Et ça, c'est peut-être cette folie-là que ne comprend pas Freud.
Mais c'est aussi peut-être, et on retrouve ça dans les compléments à la théorie sexuelle sur l'amour, cette espèce de désir indicible de ne pas être, ou en tout cas de pouvoir se contempler comme n'ayant pas encore été, finalement. Oui.
Mais le mot contempler que vous employez, je crois profondément que c'est ça. Lorsque vous méditez, lorsque vous pensez, il faut bien dissocier les choses. Là, il y a une sorte de subjectivité. C'est soi qui pense, qui veut penser, qui réfléchit à quelque chose. arrive la contemplation. Vous arrivez devant l'air impalpable, vous arrivez devant la mer magnifique, vous arrivez dans la forêt, vous rentrez. Et puis soudain, vous lâchez. Et vous êtes devenu la forêt, vous êtes devenu la mer. Vous pouvez plonger en elle, vous êtes habité, vous êtes de nouveau contenu par elle. Et le sujet, vous le perdez. C'est insubjectif profondément. Et c'est là, comment dire, ce que j'essaie. Vous savez, moi je n'ai pas écrit pour pouvoir être écrivain, une seconde. J'ai écrit pour être immergé dans ce que je ne savais pas. Pour que le temps passe plus vite que moi-même. Et arrive la fin de la matinée, j'ai pas vu le temps passer, j'ai écrit. Et je ne me suis pas vu écrire une seconde. Vous comprenez cette enveloppe qui se cherche. Ça, c'est la contemplation, c'est l'extase.
La contemplation, l'extase, mais pour vous, il y a aussi la quête. Il y a aussi quelque chose qui est de l'ordre de la résolution, l'obtention d'un savoir, ce vers quoi on une énigme, justement, qui est aussi présente dans les compléments à la théorie sexuelle et sur l'amour. Et l'énigme, elle a besoin de vous pour exister, en réalité. C'est vous qui la faites vivre, l'énigme, Pascal Quignard.
L'énigme, elle a besoin des hommes pour exister. C'est peut-être que le langage n'apporte qu'une seule chose à l'univers, c'est l'énigme de lui-même. C'est ce léger dédoublement qui fait que lui-même... Mais ça n'empêche que je crois que l'expérience de fond, qui n'a pas à être fuie, qui était celle de Ferenczi et pas celle de Freud, qui est celle du sentiment océanique, est quelque chose qui est... plus important que l'énigme même. L'énigme n'est que la porte que le savoir, à un moment, ouvre. On n'y comprend plus rien. Qu'est-ce que c'est que la sexuation ? Qu'est-ce que c'est que... Pourquoi la Terre, au milieu des planètes, est-elle la seule qui ait reçu, comment dire, une espèce d'enveloppe et de nuages d'atmosphère qui ait permis, comment dire, quelque chose comme la nature ? On tombe dans ce cas-là d'énigme en énigme, de mystère en mystère, et puis on s'abandonne à ça.
Ce sentiment océanique, il serait pure mélancolie, en réalité.
Mystique, c'est plus mystique que mélancolique. Ah. Non, Mathias, c'est plus mystique que mélancolique. Il y a quelque chose qui se tait, qui vient à se taire. Je pense que, peut-être, y a-t-il un destin dans le cours de nos vies qui commencerait donc, en effet, par l'enfance, par quelque chose qui ne peut pas parler. Il faut l'acquérir. Et puis, il faut le laisser dépérir un peu, ou du moins le rendre silencieux, c'est la littérature. La littérature rend silencieux, comment dire, le langage, et puis ensuite l'abandonner. Et c'est la musique, ou bien c'est l'extase, ou bien c'est cette attitude mystique un tout petit peu, qui est aussi beau que le crépuscule le soir.
Vous écrivez, Pascal Quignard, « Nous tombons de plus vieux que nous, nous sommes naufragés d'une mer plus ancienne. » Et là, il faut faire rentrer la métaphore, c'est-à-dire qu'il n'y a pas... entre nous tombons de plus vieux que nous et nous sommes naufragés d'une mer plus ancienne, il y a justement l'intervention de la métaphore qui est aussi cette dimension qui vous fascine et qui vous permet de développer votre pensée. C'est entre ces deux phrases que se joue là, je pense, un mouvement qui caractérise aussi votre écriture, y compris dans ces essais, ces compléments à la théorie sexuelle sur l'amour.
Mais vous savez, le mot métaphore, prenons le mot métaphore. Le mot métaphore est un mot grec que l'on peut lire toujours sur les camions en Grèce. Ça veut dire déménagement. Camion déménagement, métaphora. Bon. Ça veut dire un déménagement. Le grand déménagement, c'est la naissance. On quitte un monde pour un nouveau monde. Il y a quelque chose, une attitude qui permet que l'invention absolument insensée et qui lui est tombé sur lui, qu'il n'avait pas prévu, qui est celle, en effet, de Sigmund Freud, qui est ce qu'on appelle le transfert. Le transfert, c'est un déménagement de soi dans l'autre. Pourquoi est-il possible? Parce que nous sommes nous-mêmes déménagés de l'autre en soi. Nous avons quitté notre mère pour être nous-mêmes. Et nous avons acquis le langage pour pouvoir la rejoindre. Nous ne la rejoignons pas, ni vous ni moi, par le langage. Mais voilà, donc, la métaphore, c'est le transfert. Et le transfert, c'est peut-être aussi l'amour.
Non, Pascal Quignard, dans ses compléments à la théorie sexuelle et sur l'amour, on va croiser aussi beaucoup de personnages qui sont bien sûr des auteurs. Et j'ai été très heureux d'apercevoir au détour d'une page ce cher Heinrich Heine, et la Lorelei. Alors qu'est-ce qu'elle fait là, la Lorelei ?
La Lorelei, c'est pour moi, c'est la pierre dans le rein, c'est le roc même, c'est la sexualité.
Mais ça commence par justement par la tristesse. Attends, ça commence parce que on ne sait pas pourquoi on est triste. On est triste d'une tristesse dont on ne sait pas d'où elle provient.
Ouais. Très beau vers de Heine. Ouais. Et cette tristesse, c'est cette perte comment dire, qui résulte de la naissance, qui elle-même est, c'est l'événement où on perd quelque chose, on perd une fusion, on perd quelque chose qui... Là, vous aviez raison en parlant de mythe de la psychanalyse. Ne serait-elle qu'un mythe? C'est un très beau mythe. Il y a une barque, il y a un pêcheur, il y a une roche, et il y a un naufrage. Les Romains vraiment vivaient la naissance comme on aborde une rive, un naufragé aborde une rive. Ce qui est une belle image aussi de la naissance aussi, mais c'était vraiment la fixation magnifique. Il disait, on aborde le rivage de lumière. Et là, c'est une roche qui se dresse. Et dans cette roche, on voit, comment dire, éclaboussant, comme Aphrodite, on voit l'image d'une femme. Et dans ce cas-là, le pêcheur, la barque se renverse et retourne, comment dire, au fond de l'abîme, au fond du Rhin. C'est ce poème, c'est la Lorelei de... C'est la sirène. C'est la sirène de l'Antiquité. C'est exactement celle que rencontre Ulysse et qu'il se fait attacher à son mât pour ne pas sombrer.
Pascal Quignard, on voit bien que pour vous, que la pensée naisse, il faut le récit. Il faut une barque qui s'enfonce, il faut un visage qui apparaît dans un rocher, il faut justement ce transport, tout simplement, qui se produit par le fait qu'on vous raconte une histoire. Dans toute votre pensée, dans tous ces essais, il y a toujours des récits, des bribes d'histoire, des mythes, des choses qui traversent comme ça, des personnages qui sont mis en action pour arriver à une pensée.
Non seulement je pense ce que vous dites, mais je vais un tout petit peu en amont, c'est que chez les oiseaux, chez les mammifères, chez les tigres, chez les chevaux, chez les chats, la pensée aussi se dédouble sous forme du rêve. Et je cherche plus une sorte de matière de récit, c'est-à-dire de succession de séquences d'images un peu désordonnées, comme le sont nos rêves, plus encore qu'un récit qui serait trop organisé par la volonté, comme le sont souvent, comment dire, des récits plus métaphysiques, ou des paraboles, ou des choses. Je préfère mille fois mais vous avez parfaitement raison. Ce sont, en fait, des concaténations de petites séquences d'images. Le spectateur de cinéma, comme le lecteur de roman, comme celui qui pense dans les essais, est quelqu'un qui peut sauter par-dessus les éléments.
Alors parmi ces lieux justement d'origine, ou ces lieux où se fabrique le récit, il y a la grotte et les grottes peintes justement. On en retrouve beaucoup dans votre œuvre. Là aussi d'ailleurs, Chauvet, Lascaux, mais aussi des grottes plus profondes, des mystères, des endroits. La grotte, c'est à la fois voilà un lieu vraiment d'origine qui symbolise parce que le lieu d'avant la naissance, mais aussi la possibilité de la naissance de ces images dont nous parlons à l'instant.
Oui. Mais alors là, pardonnez-moi, là, on tombe sur un nouveau mystère qui, quand même, à chaque fois, me laisse quoi ? Qui est, pourquoi a-t-on voulu inventer la peinture en allant au fond de l'obscurité avec un flambeau pour peindre sur des parois obscures, comme si on rentrait dans le crâne de la montagne et comme si on pensait qu'il fallait, pour pouvoir qu'elle rêve la montagne, qu'elle rêve une reproduction, qu'il fallait peindre sur elle dans l'obscurité. C'est totalement délirant. Reconnaissez, Mathias Sénard, que c'est délirant. Et c'est pourtant l'origine des images.
Oui, mais ça va se poursuivre si on prend la cella, par exemple, du temple. Oui. Elle est elle aussi... Elle contient tout, mais en même temps, elle est sombre. Et il ne faut pas qu'il y parvienne de la lumière, et il faut que ce soit enfermé.
Rentrer dans le corps de la mer, au plus profond du corridor et du corps de la mer, pour essayer de rejoindre quelque chose, ou peindre la reproduction, ou peindre le dédoublement de la... Mais dans ce cas-là, c'est la même chose. Pourquoi, comment dire, au début du XXe siècle, a-t-il fallu, comment dire, creuser sous les immeubles des salles de cinéma pour que s'engouffre, malheureusement, la Covid a rendu ça difficile, et les punaises de lit ont rendu ça difficile aussi, pour que s'engouffre l'humanité pour regarder des images dans le noir? Ça recommençait.
Pascal Quignard, j'ai appris énormément en lisant ce livre, Les compléments à la théorie sexuelle et sur l'amour, y compris l'aspect sexuel du mythe de Tirésias. Ce qui n'était pas du tout évident à premier abord, parce que pour moi, Tirésias, c'était l'aveugle, justement, qui voit par l'esprit, celui qui sait aux enfers comment Ulysse peut rentrer chez lui, celui qui justement, est très éloigné, pour moi, du corps, au contraire.
Ah non, Tirésias, c'est vraiment celui auquel l'humanité fait appel pour savoir quelle est la différence entre le plaisir de la femme et le plaisir de l'homme, qui est la grande question, comment dire, que se posent les hommes pour les femmes et les femmes pour les hommes. À laquelle il ne sera jamais répondu aux femmes, à laquelle il ne sera jamais répondu aux hommes. Mais enfin, Tirésias, convoqué par Zeus et par Héra, donne une réponse d'une complexité que vous avez vue, 9 plus 1 ou 9 moins 1, il laisse entendre en fait le secret, comment dire, de ce qui sépare le coït de la reproduction, à savoir les 9 mois, qui serait donc le secret des femmes, qui serait supplémentaire au secret des hommes, qui ne serait que la secousse génitale. C'est très étrange. Mais le plus extraordinaire est la façon, là je le rapporte aussi, dont on peut évoquer Tirésias. C'est le seul qui ne rentre pas dans le fleuve Léthé. C'est le seul qui connaisse la vérité. Alétheia. C'est celui qui n'a pas traversé le fleuve Léthé. C'est le seul humain et c'est le seul divin qui connaisse la vérité. C'est un mythe très curieux, celui de Tirésias. C'est le chaman. C'est le seul chaman qui reste en Grèce.
Oui, c'est un chaman au sens où c'est un passeur d'une certaine forme
De vieux savoir. Vieux savoir. Très vieux savoir.
Alors, il y a des vieux savoirs dans ces compléments, mais aussi des savoirs plus récents. Et notamment, j'aimerais qu'on revienne un peu sur l'ère du balbutiement, qui a été un de vos premiers textes, premier livre, sur lequel vous revenez justement, et cet essai sur von Sacher Masoch, qui justement lui aussi extrêmement mystérieux en réalité, et qui pose cette question du pacte, du contrat, qui est aussi vraiment fascinante. Enfin, je vous lisais avec à la fois un étonnement de novice et en même temps une fascination d'entrevoir là quelque chose d'extrêmement puissant en réalité, qui justement dit quelque chose de l'être humain, alors qu'on aime voir ou pas.
Certainement.
Mais qui est quand même extrêmement présent en réalité.
Ça avait beaucoup troublé, je me souviens, Gilles Deleuze, quand il avait lu cet essai. Mais c'est la même chose, de toute façon, avec la psychanalyse, vous savez. L'idée qu'on forme un pacte est une idée illusoire, il n'y a pas de pacte possible. Et derrière, il y a cette idée absolument, mais mystique, au dernier degré, comme c'est ce que Saint Jean de la Croix appelait l'eau passivo, c'est cette extrême passivité qui est recherchée. Et dans la scène dont je vous parle, d'extase, ou dans la scène terminale, peut-être, du sentiment amoureux qui serait, à mes yeux, peut-être l'abandon, l'extrême passivité. C'est quelque chose de tellement précieux.
Mais ce que vous dites et qui est très très beau, c'est la surprise ne peut pas être consentie.
Non.
Ce qui passe toutes les attentes casse tous les pactes. Ça, c'est très vrai, cette idée, justement. Oui, et on voit là le rapt, par exemple, énormément de moments de surprise où, là, voilà, aucun accord ne vaut. On est pris par surprise.
Il m'est arrivé dans ce livre, à plusieurs moments, d'être désarçonné par ce que je commençais à penser. Mais c'est bien que la pensée vous contraigne à des choses. Parfois, j'avais envie de fuir un tout petit peu de même l'idée, je crois, tellement idéologique que la société serait le but de nos jours. Je ne le crois absolument pas. Je le crois de moins en moins quand je vois l'histoire des religions, quand je vois l'histoire des monastères, quand je vois l'histoire des ascèses, quand je vois l'histoire des anachorèses, quand je vois l'histoire, comment dire, c'est bien sûr, la société a raison de maudire l'individualisme qui la met à mal, mais l'individualisme a raison de vouloir, comme les fleurs ou comme les animaux, être de plus en plus farouche.
Et on en vient à cette question qui est aussi un des problèmes que vous laissez ouvert, qui est cette question du chaos. Le chaos est-il ou pas originel? Est-ce que l'amour n'est pas un reste de ce chaos originel qu'on retrouve justement là un peu le Freud dont on parlait au départ?
Et est-ce qu'il faut vraiment une fin à nos jours? Est-ce qu'il n'est pas préférable qu'il n'y ait pas de fin à nos jours? Alors là, je m'en vais m'écarter de Freud pour faire un signe d'admiration à Ferenczi. Parce que Ferenczi, dans Thalassa, ce livre qu'il a publié en 1924, qu'il ne voulait pas publier, parce qu'il avait du mal à penser aussi les conséquences de son livre, parce que ça lui paraissait un petit peu trop chaotique ou débordant. En fait, l'idée de ce livre de Ferenczi, très anti-freudienne, est tout à fait admirable. C'est-à-dire, nous aurions les conditions dans le premier monde, liquide, fusionnel, océanique, au fond de nos mers, de nous élancer vers autre chose que l'atmosphère ou que la vie sur Terre. Mais à un monde lui-même, comment dire, plus métamorphique encore, plus océanique encore. Et en fait, ça ne serait qu'une sorte d'erreur de parcours qui nous ferait naufrager sur la Terre. Je trouve cette thèse folle peut-être, mais absolument admirable de Ferenczi.
Alors Pascal Quignard, j'aurais aimé que nous parlions aussi de Léandre et Héro. Quelle histoire que celle des amours de Léandre et Héro. Mais je voudrais qu'on s'arrête, pour terminer, sur Montaigne. Parce que c'est quand même un de nos amis communs, à nous autres pauvres auteurs français. Et...
Pourquoi pauvres, dites-vous pauvres?
Non, parce que riches auteurs français. Votre visite chez Montaigne est extraordinairement inspirante. Parce que on a l'impression qu'on lit Montaigne d'habitude de façon chronologique, c'est-à-dire qu'on lit toujours les essais les uns après les autres, on avance dans les essais. Mais là, en partant du lieu, de cette tour dans laquelle il écrit, on a une autre vision, on transforme un peu ce Montaigne, qui est certes un camarade de tous les jours, mais qu'on lisait peut-être un peu trop rapidement. Parce que pour vous, justement, Montaigne, il s'attelle à l'énigme.
Et il ne cache pas qu'il est un marin. Que Equem, le premier nom qu'il barre, vous savez, à Bordeaux, dans la bibliothèque, à la réserve de la bibliothèque de Bordeaux, il y a l'exemplaire de Montaigne où on voit à la plume avec quelle rage il supprime partout Equem, Equem, Equem pour mettre Montaigne, Montaigne. Montaigne, c'est la montagne. Très taoïste. Il préfère ce nom de montagne. Il veut retirer le nom d'Equem qui veut dire Joachim en juif portugais. Bon. Il veut retirer cette trace de son nom. Nom magnifique, c'est le nom, comment dire, bref. De l'homme silencieux, le silence de Joachim est une des très belles choses du Nouveau Testament. Et là, on voit, comment dire, dans la tour, comment, comme Spinoza, on a une littérature secrète, quelque chose, comment dire, quelqu'un qui conçoit une œuvre pour y placer au centre un secret, qu'il ne placera pas, qui est en fait l'œuvre de la Boétie, qui est une œuvre absolument gigantesque. Mais finalement, il n'a pas eu le courage, il n'a pas publié finalement le contraint de la Boétie comme il devait faire dans ce thésaurus, dans ce trésor que calculaient les essais. Et la tour, on voit les endroits où il se cache. Là, comment il avait fait un conduit pour faire semblant d'écouter la messe, pour ne pas avoir à parler ni aux protestants, ni aux catholiques. Comment dire, il n'a jamais travaillé dans sa bibliothèque, mais quand on vit dans la tour, on se rend compte que c'est dans une cafourotte, dans une espèce de petite échauguette sur la droite, peinte de toutes les peintures de David, magnifiquement peintes. Malheureusement, les peintures sont toutes ternies, abîmées par la vétusté du lieu. Mais on voit qu'il travaillait là, devant une cheminée, mais pas du tout dans sa bibliothèque. Tout est un peu triché, dans sa chambre à coucher. Même chose. Il y a une cachette dans le mur pour pouvoir s'asseoir et se mettre à l'abri. Les gens peuvent venir dans sa chambre, dans ce cas-là, en faisant semblant qu'il n'y est pas. Faire semblant qu'on n'y est pas. Mais vous savez, Mathias, l'écriture, c'est ça. C'est faire semblant de ne pas y être. Les gens croient, comment dire, qu'on est dans le monde. On n'est pas tout à fait dans le monde. On est un peu séparé du monde. C'est ça, les écrivains. C'est une chambre un peu secrète qui est à côté du discours ordinaire ou du discours qui est court, comme on dit.
Merci beaucoup, Pascal Quignard, de nous avoir rendu visite dans l'entretien littéraire. Complément à la théorie sexuelle et sur l'amour paraît dans la collection Fiction et compagnie des éditions du Seuil. Cette émission était réalisée par Laurence Millet avec Florent Bujon et Guillaume Ficheux à la technique. Merci aux Aurélie Marsay qui m'avait aidé à la préparer. Nous nous retrouverons la semaine prochaine. Mais d'ici là, vous pouvez réécouter cette émission ou même podcaster l'entretien littéraire sur le site de France Culture et l'application mobile de Radio France.